Bord de Seine, Tiphaine Lemaine, bonjour! Bonjour à tous et bienvenue dans Bord de Seine, l'émission qui vous fait découvrir le théâtre au travers de ceux qui en ont fait leur passion. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir de recevoir Clarence de la chaîne World of Clarence. Infirmier en soins psychiatriques, il arbore également une casquette de comédien puisqu'il est autodidacte dans le théâtre. Sur sa chaîne YouTube World of Clarence, il met en scène et interprète des témoignages de personnes atteintes de maladies mentales, de handicap ou plus généralement qui sortent de la norme. Pour son travail sur YouTube, il a reçu le prix OCIRP Acteur économique et handicap. Mais avant de nous embarquer dans son univers, je vous propose de découvrir un extrait de L'amant de Harold Pinter.
Max.
Quoi ?
Mon chéri. Qu'y a-t-il ? Tu as l'air perdu dans tes pensées.
Mais non.
Si, je le sais.
Où est ton mari ?
Mon mari ? Tu sais où il est ?
Où est-il ?
Au bureau.
Pauvre bougre. Il s'escrime à travailler du matin au soir. J'aimerais bien le voir de près.
Max.
Je me demande si on s'entendrait tous les deux. C'est vrai, je me demande si on sympathiserait.
Ça m'étonnerait.
Pourquoi ?
Vous n'avez rien en commun.
Tu trouves ? En tout cas, il est pour le moins accommodant. Après tout, il est parfaitement au courant de nos après-midi, n'est-ce pas ?
Bien sûr.
Et ça fait des années qu'il le sait. Comment peut-il tolérer ça ?
Pourquoi brusquement parler de lui ? Voyons, à quoi est-ce que ça sert ? C'est un sujet que tu évites d'habitude.
Comment peut-il tolérer ça ?
Oh, tais-toi.
Je t'ai posé une question.
Ça ne le gêne pas.
Ça ne le gêne pas. Eh bien, moi, ça commence à me gêner.
Pardon ?
Moi, ça commence à me gêner. Et il faut que ça cesse. Ça ne peut pas continuer.
Tu ne parles pas sérieusement.
Ça ne peut pas continuer.
Tu plaisantes ?
Non.
Pourquoi ? À cause de mon mari ? Ce n'est pas pour lui, j'espère. Franchement, je trouve que tu vas un peu trop loin.
Non, ça n'a rien à voir avec ton mari. C'est à cause de ma femme.
Ta femme ?
Je ne peux pas continuer à la tromper.
Max !
Il y a des années que je la trompe. Il faut que ça cesse. Ça me tue.
Écoute, mon chéri.
Ne me touche pas.
Qu'est-ce que tu as dit ?
Tu as très bien entendu.
Mais ta femme est au courant, n'est-ce pas ? Tu lui as tout expliqué. À propos de nous, elle le sait depuis longtemps.
Non. Elle n'est au courant de rien, elle croit que je vois une putain, c'est tout. Tu comprends ? Une putain à mi-temps, c'est tout.
Bon, mais sois raisonnable, mon amour. Ça lui est égal, n'est-ce pas ?
Ça ne lui serait pas égal si elle apprenait la vérité. Tu ne crois pas ?
Quelle vérité ? De quoi parles-tu ?
Ça ne lui serait plus du tout égal si elle apprenait qu'en réalité, j'ai une maîtresse en titre, 2 ou 3 fois par semaine, une femme pleine de grâce, d'élégance, d'esprit, d'imagination.
Oui. Oui, c'est vrai.
Et que cette aventure dure depuis des années et des années.
Mais ça lui est égal. Je t'assure, ça lui est bien égal. Elle est parfaitement heureuse, tu m'entends ? Heureuse. Arrête de dire des sottises, je t'en prie. Tu fais tout ce que tu peux pour gâcher cet après-midi. Mon chéri, écoute-moi. Tu ne penses pas vraiment que tu pourrais avoir, avec ta femme, ce que nous avons, nous, n'est-ce pas ? Je veux dire, mon mari, par exemple... Il comprend très bien que je...
Comment peut-il supporter cela, ton mari ? Comment supporte-t-il cela ? Il ne flaire donc pas ma présence quand il rentre le soir ? Qu'est-ce qu'il dit ? Il doit être fou. En ce moment même... Quelle heure est-il ? 4h30 ? En ce moment même, il est assis derrière son bureau et il sait très bien ce qui se passe ici, chez lui. Qu'est-ce qu'il ressent ? Comment peut-il supporter ça ?
Max !
Comment ?
Il est content pour moi. Il sait comment je suis et il comprend.
Je devrais peut-être aller le voir. En discuter avec lui.
Max, tu as bu ?
Oui, je devrais peut-être aller lui parler. C'est un homme, après tout. Comme moi. Oui, nous sommes des hommes, tous les deux. Toi, tu n'es qu'une foutue bonne femme.
Arrête! Qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce qui t'arrive? Je t'en prie, arrête! Je t'en prie, qu'est-ce que tu fais? Quel jeu joues-tu?
Un jeu? Je ne joue pas.
Ah non? Mais si, Max, si, tu joues, tu joues. C'est un jeu. D'habitude, j'aime tes jeux.
Eh bien, j'ai fini de jouer.
Pourquoi?
Les enfants.
Quoi?
Les enfants. Il faut que je pense aux enfants.
Quels enfants?
Mes enfants, les enfants de ma femme. Ils vont bientôt quitter la pension, d'un jour à l'autre. Il faut que je pense à eux.
Je veux te dire quelque chose à l'oreille, tout bas. Écoute, je veux te parler tout bas. Hein? Tu veux bien? S'il te plaît. C'est le moment où il faut parler tout bas. Tout à l'heure, c'était l'heure du thé, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Maintenant, c'est l'heure de parler tout bas. Tu aimes que je te parle tout bas à l'oreille, n'est-ce pas? Tu aimes bien que je t'aime tout bas. Tout bas. Écoute, il ne faut plus penser à... aux femmes, aux maris, à tout ça. C'est idiot. C'est tellement idiot. C'est toi. Toi maintenant, ici. Toi ici avec moi, tous les deux ensemble. C'est ce qui compte, n'est-ce pas? Tu me parles tout bas, tu prends le thé avec moi. C'est vrai ça, n'est-ce pas? C'est cela que nous sommes. C'est nous deux. Aime-moi.
Tu es trop maigre. C'est ça en réalité, vois-tu? Je peux supporter tout le reste, mais pas ça. Tu es trop maigre.
Maigre? Moi? Qu'est-ce que c'est que cette bêtise?
Ce n'est pas une bêtise.
Comment peux-tu dire que je suis maigre?
Dès que je te touche, je sens tes os qui me rentrent dans le corps. J'en ai assez. Je suis fatigué de tes os.
Qu'est-ce que tu racontes?
Je te dis que tu es trop maigre.
Mais je suis grosse! Mais regarde-moi, je suis rondouillette! En tout cas, tu m'as toujours dit que j'étais rondouillette.
Avant, oui, tu étais rondouillette. Maintenant, tu n'es plus du tout rondouillette.
Regarde-moi!
Tu n'es pas assez rondouillette. Tu es loin d'être assez rondouillette. Tu sais ce que j'aime? J'aime les femmes énormes. Comme des bœufs avec des pies. D'énormes gros bœufs avec des pies.
Tu veux dire des vaches?
Non, pas des vaches. Je veux dire d'énormes gros bœufs femelles avec des pies. Dans le temps, il y a des années, tu ressemblais vaguement à ça.
Merci beaucoup.
Mais maintenant, très honnêtement, à côté de mon idéal, il n'y a que la peau sur les os.
Tu dis ça pour rire, n'est-ce pas?
Je ne ris pas du tout.
Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Clarence de la chaîne World of Clarence. Bonjour.
Salut.
Ça va?
Ouais, ça va, et toi?
Super. Alors, tu as un concept qui est de faire témoigner, de mettre en scène et de réaliser des témoignages de personnes qui sont soit atteintes de maladies mentales, soit qui ont vécu des traumatismes. Comment est-ce que tu en es arrivé à faire ce concept?
Alors, c'est venu par l'intermédiaire d'un autre youtubeur. Un autre youtubeur qui s'appelait, maintenant il a changé de pseudo, qui s'appelait Epileptic Man. Et en fait, sa caractéristique, c'était que c'était un patient, en tout cas une personne qui était épileptique. Et lui, il vulgarisait l'épilepsie sur Internet. Et en fait, il m'a proposé de faire une collaboration. Et donc, on a réfléchi à ce qu'on pouvait faire ensemble. Et ce que je me suis dit que ce qui m'intéressait le plus, à la base, chez lui, c'était... son vécu par rapport à sa maladie. Comment est-ce qu'il vivait les choses émotionnellement? Je lui dis, ben voilà, est-ce que tu peux m'écrire un texte dans lequel tu vas dire ce que tu as envie de dire au monde, que tu n'as jamais trop osé dire? Et puis moi, comme ça, je peux l'incarner pour toi. Vu que j'avais déjà un bagage théâtral et que sur ma chaîne YouTube, je parlais un petit peu déjà des maladies mentales et des maladies neurologiques, et que c'est ça qui avait fait que ça commençait un petit peu à. On commençait un peu à parler de moi dans le YouTube game, très légèrement. Restons modestes. Et du coup, on avait pensé à ce concept de vidéo en duo. Et c'est comme ça que ça s'est fait. Et en fait, donc du coup, ça a matché, ça a fonctionné. Et à partir de là, j'ai reçu plein de témoignages de gens qui me suivaient. Et je me suis dit, ben zut, il faut en faire quelque chose de cette substance-là. Et à partir de là, je me suis dit que... si c'était la demande des gens, bah, qu'on allait exploiter leurs mots pour en faire un outil de... alors pas forcément de déstigmatisation, c'est pas forcément venu. À la base, ça répondait à un désir des gens de témoigner, en fait, de parler.
Donc l'idée, c'était plutôt de répondre à ce désir?
Donc premièrement, ouais. Premièrement, ouais. Et puis, c'était aussi pour moi l'occasion de, d'incarner. Je suis, je viens du théâtre. J'aime bien dire que je suis un enfant du théâtre. Et ce qui fait sens pour moi, c'est de là où je me sens utile, c'est quand j'incarne l'autre, quand je lui donne parole, quand je prends un masque pour parler pour lui, là où je me sens vivant. Enfin, comme beaucoup de comédiens, hein, je pense, on peut te le dire à ce micro. Et c'est dire l'autre, c'est l'essence même du comédien, je crois, c'est dire l'indicible. Et du coup, ben, je me suis dit que voilà, plutôt qu'à travers des personnages de fiction qui sont déjà écrits par des auteurs, ce que j'aime déjà beaucoup faire, hein, porter un texte ancien ou un texte moderne, ben là, du coup, je me suis dit, on va carrément travailler avec des autobiographes, finalement, des gens qui ont une parole à porter, qu'ils ne peuvent pas porter autrement qu'anonymement. Et c'est à partir de, voilà, de ce désir-là et de cette envie que je me suis dit, bah, écoute, autant donner la parole à ces gens-là et moi me rendre utile comme ça. Et puis après, de fil en aiguille, je me suis rendu compte que ça pouvait permettre de déstigmatiser. Mais à la base, ouais, ça répondait à un désir, un sentiment d'utilité et une demande, en fait. Une demande, je me suis dit, bah, pourquoi pas l'exploiter ? Autant faire fonctionner cette souffrance qui est là, ce chaos. J'aime bien, moi, parler de façon un peu provocative. Tu couperas. J'aime bien parler de façon un peu provocatrice de merde du monde. Comme si les gens avaient tout ce qu'ils avaient mal digéré. Mais il faut que ça ressorte, il faut que ça parle, il faut que ce soit dit. Et ça passe à travers le média de l'art, en l'occurrence de la vidéo. Effectivement, parfois, ça peut être dérangeant.
Alors, justement, parlant d'être dérangeant, est-ce que c'est une volonté de chercher à déranger les personnes qui regardent ou pas du tout?
Non. Non, j'essaie en fait juste de faire parler les tripes. Donc en fait, le principe, hein, de cette chaîne de vidéos, c'est que je co-construis un objet audiovisuel, donc une vidéo YouTube, avec la personne qui me fait la demande de témoigner. Donc c'est les gens qui viennent me chercher et qui disent, voilà, je connais ton travail, je connais ton esthétique, j'aimerais porter ma parole, j'aimerais porte ma parole. Et après, moi, là, je laisse complètement carte blanche à la personne. Je dis, est-ce que tu veux qu'on co-construise la vidéo ? Moi, j'essaie vraiment de faire en sorte que ce soit une co-construction le plus possible. Donc, pas du tout une relation soignant-soigné, ou en tout cas, ça ne se pose pas comme une relation d'art-thérapie. Même si on m'a plusieurs fois dit que ça pouvait être assimilé à de l'art-thérapie, c'est pas la vocation. La première chose, c'est plutôt une relation d'auteur, autobiographe, avec un acteur, réalisateur, un vidéaste. Et l'idée, c'est de... Donc, ils me transmettent une parole, un témoignage, un texte sur un format Word, PDF. Moi, je le lis. Si je suis suffisamment touché, si j'ai envie de travailler avec ça, je dis banco, parce que forcément, j'ai beaucoup de textes, donc malheureusement, je suis obligé de faire une sélection. Et après, j'incite toujours la personne à me dire, voilà, est-ce que tu as une envie d'esthétique ? Est-ce que tu as une envie d'image, de son, de vidéo que tu as fait toi-même ? Est-ce qu'il y a des photos que tu as envie de mettre ? Est-ce qu'il y a des couleurs qui correspondent à telle période de ta vie ? Voilà, j'essaie vraiment d'inculquer le plus possible la personne au sein du témoignage pour que ce soit une co-réalisation. Bon, ça c'est ce que je propose. Souvent les gens me laissent carte blanche, mais malgré ça, j'essaie toujours de leur demander. Après, je me laisse porter par le texte et donc parce que ça m'inspire. Et des fois, je dis, ben là, j'aimerais bien, si tu te le sens, est-ce que toi, tu te sens de venir apparaître à l'image pour parler, ou que ce soit ta propre voix, que tu t'enregistres, qu'on parle en même temps, ou que tu prennes une photo marquante pour toi de cet événement-là, de ta vie qui t'a marqué, est-ce que tu as quelque chose pour l'illustrer, ou si c'est pas une photo que tu as prise toi, une photo Google qui représenterait bien ce que tu veux indiquer. Et donc, j'essaie comme ça de... C'est ce qui me permet, voilà, d'essayer de transmettre une individualité. Et si la personne veut parler elle-même, si elle veut s'afficher elle-même, il n'y a pas de problème. En fait, elle le fait. Ça n'arrive que très rarement. Mais il y a certaines vidéos où on peut apercevoir le visage des gens, parfois souvent flouté d'ailleurs, où on peut aussi entendre leur voix, parfois non floutée, quand eux, ils se sentent de parler à visage un petit peu moins découvert. Et du coup, l'intention derrière pour répondre à ta question, non, n'est pas de provoquer, j'essaie juste de me laisser porter. Et après... j'essaie, voilà, comme je dis, de le faire avec les tripes. Et forcément, quand on essaie de faire quelque chose d'une manière charnelle, ça crée derrière ça crée quelque chose, quelque chose auquel on est sensible ou pas.
Donc finalement, la mise en scène, elle se crée en commun
oui.
avec la personne témoignante.
Oui,
d'accord.
C'est l'objectif.
Okay. Donc ça se décide comme ça.
Ouais.
Ok. Alors une autre question que j'avais aussi pour toi. Dans le théâtre, on travaille beaucoup avec ce que l'on est. Est-ce qu'il y a une part de toi que tu mets en scène? Enfin, est-ce que tu travailles avec une part de toi quand tu mets en scène une parole?
Ah oui, évidemment. c'est évidemment. C'est peut-être le métier où on travaille le plus avec ce qu'on est. Donc oui, c'est même si c'est un personnage que j'incarne sur YouTube, on donne toujours de soi, de ses propres émotions. On va chercher pour incarner la joie, on se rappelle ce qui nous a rendu joyeux. Pour incarner triste, quel souvenir pourrait nous attrister, nous faire pleurer. Et oui, on va piocher en soi, bien sûr. Puis c'est au-delà d'être mon image, c'est aussi une part de mon essence qui est donnée là pour incarner la parole de l'autre. Surtout une parole qui est comme ça à nu et décharnée, il faut en partie aussi soi-même se mettre à poil.
Alors je vais revenir un petit peu sur la mise en scène. Combien de temps ça prend à peu près de faire une vidéo?
C'est long parce que donc il faut d'abord trouver le texte. Enfin, souvent je ne le modifie pas ou très peu. Alors, des fois les gens ils m'envoient des textes sans ponctuation ou quoi, donc moi après je le réorganise. Après ça, il y a la phase de recherche, de mise en scène, la phase d'échange avec la personne, et puis après la phase de tournage. Là je réfléchis, est-ce que je veux juste mettre ma voix, est-ce que je veux qu'il y ait mon visage? Dans ces cas-là, est-ce que je m'habille, est-ce que je me costume? Comment? Donc il y a des vidéos où... C'était surtout mes premières vidéos où on voyait mon visage et mon apparence. Après, j'ai surtout travaillé avec ma voix. Et bon, ça peut prendre une demi-journée. Et puis après, il y a le montage qui peut être très long et qui est sujet à faire des allers-retours, puisque je demande toujours l'avis, évidemment, de la personne qui a témoigné. Donc la vidéo, avant d'être publiée, est toujours validée par la personne qui a témoigné. Donc je dirais que, tout confondu, ça doit peut-être me prendre une vingtaine d'heures si on aligne... On aligne les choses par vidéo. Des fois, c'est plus long, des fois, c'est plus court. Ça dépend de l'intensité de la vidéo, de sa durée, de ce que j'ai choisi comme élément de mise en scène, etc.
Est-ce que les musiques et les visuels aussi, tu les choisis en commun avec la personne ou il y a aussi du choix personnel dedans?
Alors, il y a les deux. C'est-à-dire que moi, je propose, ça m'arrive de proposer certaines musiques en disant voilà, j'ai pensé à ça. Ou des fois, juste la personne le découvre pendant le visionnage et puis ça lui plaît pas, je change. Mais et puis des fois je dis voilà, j'aimerais bien que tu me trouves telle musique, enfin des musiques qui correspondent à ton témoignage, à cette période de ta vie, et puis après ils me les envoient et moi je compose avec. Donc c'est les deux, c'est une co-construction toujours.
D'accord.
Sauf quand ils me laissent carte blanche, encore une fois, bah là je fais bah ok, bah je prends ce qui m'inspire.
Alors tu interprètes du coup le témoignage, comment est-ce que tu fais pour sortir après du personnage?
Bon, ça c'est facile, hein, c'est comme quand on est infirmier, quand on enlève sa blouse une fois chez soi, j'ai cette distance-là que j'ai toujours su bien travailler, donc je suis aussi soignant à côté de cette activité-là, et j'ai jamais eu de problème avec la distance soignant-soigné, alors je dis pas que je me laisse pas toucher, mais en tout cas quand je retire ma blouse, c'est réglé, quoi. J'arrive toujours à mettre à distance l'émotionnel, et je pense que le théâtre m'aide à ça aussi. En fait, au contraire, le fait de venir extérioriser cette souffrance-là, c'est aussi extérioriser une part de ma souffrance. Alors, je ne dis pas que je suis forcément un être écorché, vif et qui est autant en souffrance que les personnes qui témoignent, mais en tout cas, ça me permet, moi, c'est un moyen aussi d'exutoire et on lâche tout simplement et puis on enlève son costume, on éteint la caméra et puis ça disparaît, puis on revient avec soi, mais on a été un petit peu en manière avec soi aussi d'un certain côté, donc c'est presque comme faire du sport en fait, hein. Sauf que plutôt que de lâcher de la sueur, on lâche des larmes, ou des émotions, sans que ce soit des larmes, juste des mots parfois, lâcher des mots, ça fait du bien même si c'est pas les siens, donc... Et si c'est vraiment une fois, ça m'est arrivé d'être pris par un témoignant, tu vas courir un coup et puis hop, ça part. Mais après, voilà, c'est chacun sa sensibilité aussi. Moi, je sais que c'est pas. Ça va, ça, je le gère bien.
Et comment est-ce que tu fais pour te faire ressortir la personne qu'il y a derrière une maladie ou derrière une souffrance?
Avec la co-construction. Le fait que eux participent aussi et le fait que, encore une fois, c'est une esthétique particulière, tout le monde n'y est pas sensible. Si les gens viennent me demander une vidéo, c'est qu'ils sont sensibles à cette esthétique là et c'est donc que ça dit quelque chose de leur sensibilité et donc ils se disent ben moi j'ai envie que ma parole soit transmise sous cette esthétique et cette esthétique donc correspond à ce qu'ils sont aussi. Parce que je pense que je ne suis pas capable de mettre en scène la parole de tout le monde. En fait, c'est des gens qui ressentent, qui ont une certaine similitude avec moi et qui sont touchés par ça. Et après, voilà, j'utilise beaucoup la musique, qui pour moi est un vecteur important d'émotion. C'est souvent, parfois d'ailleurs, la base de mon travail. Il y a certaines vidéos où même ça peut ressembler à presque un certain rap ou un certain slam, où la musique sert de support parfois, même la musique étouffe la voix. Mmh. Et je trouve que ça, c'est très porteur. Et puis après, voilà, je me nourris aussi de ce que l'autre m'apporte et surtout de son texte, de ses mots. Comme toute mise en scène, tu pars du texte.
Est-ce que c'est aussi cette mise en scène, cette co-construction qui t'aide à devenir un peu le personnage ?
Oui.
Qui t'aide à le construire aussi ?
Et puis j'échange avec eux aussi. J'échange avec les témoignants. Au-delà du texte, c'est qu'est-ce que tu as voulu dire à cet endroit-là ? Je ne suis pas sûr de bien comprendre. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi ? Est-ce qu'il y a un terme qui est plus important qu'un autre ? Donc c'est un travail. Et l'idée, c'est après, ben, quand eux ils se reconnaissent dans la vidéo, à partir de là, c'est gagné. C'est ce que je dis souvent, c'est quelle que soit la violence de la vidéo, quelle que soit ce que ça peut apporter en termes de dérangement, peu importe, à partir du moment où eux disent ben, « je me suis reconnu », c'est « merci ». Et à partir de là... Personne n'a rien à dire par rapport à ce que la personne vient affirmer en tant que ce qu'elle est. Si son identité, c'est cette... Enfin, son identité, non. C'est trop prétentieux de dire que c'est l'identité de la personne qui est mise en scène. En tout cas, c'est à un moment donné un fragment de sa vie et un fragment de son émotion. Et si la personne dit bah, « ça correspond à ce que je suis, à ce que j'ai vécu », personne ne peut dire que c'est trop violent. C'est la réalité, point barre. C'est la personne qui a témoigné, qui est seule garante de la réalité de ce qui est mis en scène. Alors, avec moi, évidemment, parce qu'il y a mon prisme aussi. Mais si la personne valide... Même moi, il y a certaines vidéos, tu vois. Quand je les re-regarde des années après, je me dis, putain, c'est quand même... Au niveau de la mise en scène, j'aurais pu faire autrement. C'est peut-être un peu surjoué, tu vois. Il y a des trucs, c'est un peu lourdingue. Et en fait, quand j'en parle autour de moi, on me dit, bah ouais, mais bon, la personne l'a validé, en fait. Donc, si elle s'est reconnue dedans... Ouais, bon, c'est vrai, t'as raison. Après, on est toujours un peu critique avec son propre travail, c'est normal, mais voilà, il y a des vidéos, si c'était à refaire aujourd'hui, je les ferais différemment. Peut-être que ça toucherait quand même la personne, peut-être moins. Mais bon, c'est aussi un service qui est rendu et voilà, l'individualité, elle est là, peu importe ce qu'on en dit à côté. Et si un jour le témoignant revient vers moi, c'est déjà arrivé, et me dit, écoute, cette vidéo, soit elle, et je me rends compte après coup qu'elle est trop chargée, soit je me reconnais plus dedans, ben c'est le jeu, je la supprime. Si on me demande de la supprimer, je la supprime.
Tu es arrivé avec, par exemple, une vidéo avec
c'est
laquelle
déjà arrivé.
Ouais, avec laquelle
c'est déjà arrivé avec une vidéo qui est plus en ligne. C'est une vidéo qui était extrêmement lourde. C'est justement celle-là qui a été pour moi une des plus émotionnelles à tourner. Et où vraiment, j'ai pleuré pendant le tournage. Tu vois, j'ai été pris et je trouvais ça trop beau. Pour moi, si se passait ça, c'est que c'était réussi.
D'accord.
Et en fait, c'était trop violent. C'était une vidéo qui parlait beaucoup d'inceste, de viol,
oui,
traumatisme. À tel point que j'avais fait un disclaimer, j'avais fait une version censurée, une version non censurée. Et en fait, au bout d'un certain temps, la personne m'a dit c'est trop violent, est-ce que tu peux la supprimer ? Alors qu'elle avait validé initialement, tu vois. Elle avait dit merci, c'est trop bien et tout. Mais quelques temps après, voilà, ça avait fait ressurgir trop de choses. Donc on a enlevé, et puis peut-être qu'un jour elle reviendra, cette personne, elle me dira ok c'est bon, j'ai composé, j'ai mûri tout ça, on peut la remettre. Mais c'était la plus noire et la plus difficilement supportable de ma chaîne, elle était extrêmement, celle-là, malaisante. Après c'était une forme de réalité aussi, on s'y confronte ou on s'y confronte pas.
C'est vrai qu'à titre personnel, j'avais vu que cette vidéo était sortie, et c'est à partir de là que j'avais arrêté de regarder... ces séries-là.
D'accord.
Justement, parce que je voulais pas la regarder seule, on devait la regarder avec une amie, okay. Et au final, ça c'est pas fait. Et c'est pour ça que j'ai pas compris quand je l'ai plus vue.
Ouais. Mais t'as la réponse.
Du coup, et donc c'est celle-là qui a été particulièrement touchante.
Ouais. Et puis après, il y a eu un échange particulier avec le témoignant aussi. Hein. Mais... Ouais, puis je m'étais maquillée. J'avais vraiment fait un effort de travail, de maquillage, d'habillage. Et en plus, ce témoignant s'était vraiment impliqué dans la mise en scène. Il avait fait une vidéo lui-même, donc il y avait un passage de 3 minutes où c'était juste une vidéo qu'il avait faite lui. Bon, c'était un montage de mots, de musique, voilà, d'insultes qu'il avait reçues. Et il le mettait en scène, lui, à sa manière. Et du coup, bah, ça m'avait touché parce qu'il y avait une part artistique. C'était un musicien aussi, donc je crois qu'il y avait certaines musiques qu'il avait composées aussi lui-même. Donc c'était touchant. Voilà, c'était... C'est à chaque fois, c'est des belles rencontres. Mmh. C'est presque ce que j'aime bien. C'est pas une fusion parce que bah, on est à distance.
Oula. Attends, t'as le micro qui s'est coupé là d'un coup.
C'est à chaque fois des belles rencontres. Alors je sais pas si on peut parler de fusion à proprement parler, mais il y a quand même quelque chose, c'est d'incarner l'autre et que l'autre te donne la confiance de le faire pour porter sa parole et surtout des mots, un jeu de mots, MOT, MAUX, qui sont propres à sa vie. Ça veut dire que bah, moi ça me fait, c'est vraiment un gros sentiment d'utilité. Je reviens souvent à ça, mais il y a un truc de se dire ok, cette personne me fait confiance pour porter sa parole publiquement. Et ça, c'est hyper touchant. Et donc, forcément, tu te mets à incarner l'autre. Donc, il y a une forme de... Alors, c'est pas forcément fusion, le bon terme, ou de sympathie, peut-être. Plus que d'empathie, ouais. En tant que soignant, on est dans l'empathie avec les patients. Là, moi, ces gens-là avec qui je travaille sur YouTube, ce sont pas mes patients, ce sont des auteurs autobiographes. Et donc là, ça me gêne moins de rentrer dans une forme de symbiose émotionnelle. Voilà, c'est beau. Je trouve que c'est beau ce qui se passe avec eux et la confiance qu'ils m'accordent. Ben à chaque fois, je les remercie pour ça, quoi. Et c'est touchant.
C'est marrant parce qu'il y a une phrase que tu dis dans un article de santémentale.fr. Tu dis « Je cherche à sublimer les mots pour libérer les mots MAUX, voilà, qui sont individuels ou politiques. » C'est quoi que tu entends par là ?
Eh ben alors, la portée politique, elle est venue un peu plus tard. On me l'a suggéré, moi je n'avais pas forcément d'ambition de déstigmatisation, de déstigmatisation politique, c'était vraiment un désir d'être utile et de rendre service. Et en fait on m'a dit, ouais, y a une portée de déstigmatisation et au sens politique. Bon, déjà, on revient à ce concept de merde du monde, c'est ce que le monde fait de nous aussi. Alors je ne dis pas que le monde est entièrement responsable de notre souffrance. Il y a aussi, nous-mêmes, on a une part de responsabilité avec notre propre souffrance et notre propre malheur, mais en tout cas, force est de constater qu'il y a des dégâts collatéraux. Et c'est ce qui m'intéresse aussi, c'est de mettre, finalement, je me suis rendu compte que je mettais en avant des dégâts collatéraux et des histoires individuelles de peine, et c'est en ça que c'est politique. C'est que c'est politique au sens de vie de la cité, et comment est-ce qu'on intègre la personne différente dans le grand public, comment est-ce qu'elle parle aussi, pour tout le monde. Il y a aussi cette idée de la police qui fait référence à l'Antiquité grecque, où il y avait ces places publiques où tout le monde parlait, il y avait des forums, etc. Et il y a ce truc-là, un petit peu de mettre en avant une parole qui n'est pas dite habituellement, et pour autant qui fait partie de la cité, et qui fait partie du monde, et... de l'environnement dans lequel on vit, de la vie citoyenne dans laquelle on vit. Je pense que voilà, c'est pour ça. Après, c'est pas politique au sens de faire carrière, c'est vraiment au sens de... C'est social. Peut-être plus social que politique,
plus social,
finalement. Mais politique au sens de vie de la cité.
D'accord, alors ça, c'est l'heure d'une première pause musicale.
Ah, très bien.
Alors, est-ce que tu peux nous parler d'un morceau que tu as choisi ?
Ouais, on va partir sur un morceau que j'ai déjà utilisé dans une de mes vidéos, une vidéo qui parle de l'anorexie mentale. Et c'est un morceau de Chaka Ponk, puisque c'est un groupe français que j'aime beaucoup, que je trouve que ce sont de vrais artistes et artisans du son, qui s'appelle Share a Line, qui parle de drogue. You wanna do it?
flesh on the floor. Your soul in the air, living you dare fly out the door. Let me tell you about a guapa I knew. She was such a pretty little lady, pretty little lady, O.D. She's a lot like you, solo wanted a flip, just one more trip. But the trip is a trap, you never come back, you never come back. You know it, Lord, Lord, it, sweet in a lot. You know it, Lord, sweet in a lot. You know it, Lord, it, you're sweet in a lot. You know it, Lord, it, sweet in.
Economic income picture, and they think that they can reach down to our grab existence and lift us up.
Vous êtes toujours sur Bord de Scène avec Tiffaine et je suis en compagnie de Clarence.
Yes, toujours là.
Alors, on parlait tout à l'heure de la mise en scène. Là, maintenant, je vous te propose de parler un petit peu du lien que tu mets en place avec les spectateurs, ceux qui vont regarder les vidéos. Est-ce que tu as un lien, est-ce qu'il y a un lien que tu cherches à établir entre la personne témoignante et les spectateurs ?
Alors, la question du lien, je pense qu'elle est double. Il y a deux types de liens. Il va y avoir un lien empathique et puis un lien plus social, concret, réel. Les deux types de liens sont effectivement intéressants à chercher. Le premier, donc le lien empathique, c'est mon premier créneau, c'est-à-dire que moi, je ne fais pas de la vulgarisation, je n'essaie pas d'expliquer les maladies mentales ou les différences, parce que je n'ai pas pris les témoignages, encore une fois, de gens qui sont uniquement diagnostiqués. Il y a des gens qui ont des différences particulières, sensibles, ou des sexualités un peu hors normes, sans que ce soit forcément pathologique. Mais ces gens différents, effectivement, j'essaie plutôt donc d'expliquer une maladie, de faire ressentir une émotion ou de faire ressentir une individualité. Voilà, c'est plus ça mon créneau. Il y a des chaînes YouTube qui expliquent très bien la maladie mentale. Et moi, je vais plutôt être sur le registre de l'émotionnel, de l'empathie. Et moi, mon but, c'est d'essayer que l'autre, le spectateur, se reconnaisse dans ce qu'il entend. Alors, pas complètement, mais en tout cas, qu'il puisse se dire à un moment donné, oui, putain, ça pourrait être moi. Ou alors, mais quelle souffrance, je comprends mieux cette façon de réagir. Et à partir du moment où l'empathie, même la sympathie comme ça se crée, je me suis dit, ok, là j'ai touché quelque chose. Alors c'est pas, tout le monde n'en fait pas forcément l'expérience, parce que c'est un truc, se confronter à l'expérimentation d'une souffrance, ça peut être dur. Mais il y en a que ça fait avancer, il y a des paroles qui se libèrent un petit peu comme ça, il y a des gens qui l'utilisent aussi pour faire de la formation, des psychiatres, des psychologues, etc. Donc, c'est un vecteur émotionnel. Donc ça, c'est le premier type de lien. Oui, j'essaie de faire en sorte que le spectateur s'identifie au témoignant, pour nous rappeler qu'on est tous humains et qu'on a tous nos points communs et évidemment nos différences aussi. Et ensuite, le deuxième type de lien, qui est beaucoup plus concret, c'est à travers le format Internet, qui fait que moi, je propose toujours Oh, le lapsus. Putain. Tu pourras l'enlever, ça. Tu pourras vraiment l'enlever. Je propose toujours aux spectateurs de rentrer en contact avec la personne qui témoigne, si le témoignant le souhaite. Donc pour ça il m'envoie un message, il passe par mon intermédiaire en fait, et moi je dis au témoignant, voilà, j'ai reçu tel message de telle personne qui voudrait entrer en contact avec toi, libre à toi de le faire. Et comme ça il y a des histoires qui se créent entre, dans la communauté il y a des gens qui se rencontrent aussi, bon ça comme toute communauté YouTube hein, mais à un moment donné je sais qu'il y avait un Discord qui s'était créé où on échangeait, moi j'intervenais de temps en temps, on échangeait sur les vidéos, parfois j'invitais aussi les témoignants à venir parler, échanger directement avec le public sans forcément afficher leur visage quoi, juste vocalement. Et voilà, donc c'est deux types de liens qui, oui, sont recherchés et à encourager, ouais.
Alors comment est-ce qu'on fait pour faire ressentir le poids, justement, d'une maladie ou d'un traumatisme ?
Encore une fois, j'essaie pas d'expliquer une maladie, j'essaie de faire ressentir une individualité. Donc ça revient à la question que tu me posais tout à l'heure, dans le sens où comment est-ce qu'on fait pour... retranscrire une personne, comment on fait pour incarner une personne ou sortir d'une personne, sortir d'un témoignage, c'est une co-construction, c'est un travail. Puis je pense qu'il y a une forme de sensibilité aussi et d'empathie. Ouais.
Est-ce qu'il y a une... Alors oui, tu parlais de la réaction que tu cherchais à susciter.
Ouais.
Qu'est-ce que tu entends par prisme émotionnel quand tu dis que tu essaies de faire ressentir une réaction émotionnelle?
J'essaie de parler non pas avec ce qui nous résonne, non pas avec ce qui nous rationalise, mais plutôt avec ce qui nous touche. Et avec l'outil principal du comédien, à savoir l'émotion. Et c'est ce vecteur-là que je choisis d'emprunter pour toucher. Voilà. Toucher avec des mots. Et effectivement, une mise en scène qui est particulière et qui va chercher dans quelque chose de très marqué, tant au niveau des sons que de la musique, que des visuels. J'essaie de saisir un petit peu tous les sens possibles, de façon à ce que vraiment il y ait une imprégnation. On dit que c'est la meilleure façon d'apprendre, de stimuler tous les sens. Ben là, du coup, ces sens-là sont mis en alerte. C'est pour ça, souvent, que je conseille toujours au début de mes vidéos d'écouter avec des écouteurs, parce que c'est encore plus immersif. Mmh. De se faire porter dans une histoire. Et c'est encore une fois, hein, c'est un parti pris esthétique. Il y en a qui vont choisir la sobriété. Et il y a certaines vidéos qui sont extrêmement sobres. On me demande, ou alors je fais le choix de la sobriété, ou juste j'incarne le texte, et puis c'est tout sur un plan fixe. Et puis il y en a où ça va beaucoup plus. Ça va exploser, ça va gicler, ça va redescendre, ça va remonter. C'est violent, ça peut être violent. Hein. Et j'aime bien cette phrase de Victor Hugo qui disait il y a deux manières de susciter. Alors je sais plus exactement. Attends, je peux juste couper et que je vérifie cette phrase. Il y a deux manières de susciter le. J'aime bien cette phrase de Victor Hugo, moi qui me guide et qui guide aussi mon expérience en tant que spectateur. Parce que moi je suis féru aussi de théâtre, j'aime beaucoup aller au théâtre. Et il dit, il y a deux manières de passionner la foule au théâtre, par le grand et par le vrai. Le grand prend les masses et le vrai saisit l'individu. Mmh. Et en fait, à travers ce travail sur Internet, donc, qui n'est pas du théâtre, mais qui est une forme de théâtre, puisque c'est finalement de la réalisation, hein, pas du cinéma, mais c'est de l'audiovisuel, on va dire, il y a le vrai qui est présent à travers, évidemment, le témoignant, la substance humaine qui parle. Et puis de l'autre, le grand, c'est tout ce qui est attrait à la mise en scène et à tous les effets que je peux rajouter. Et en fait, c'est pour ça que j'ai ce parti pris là aussi. Moi, mon but, c'est d'essayer de toucher le plus de monde possible. Mmh. C'est une démarche qui n'a de sens que si elle est vue par le plus grand nombre. Et c'est pour ça que j'essaie d'adopter une esthétique qui puisse heurter à un moment donné et parler à la foule, à la masse de YouTube. Je ne sais pas si c'est forcément une bonne idée. Ou quelque chose qui est... peut-être que j'aurais fait autrement, ça se serait passé différemment, ou pas, je sais pas.
L'idée, c'est de saisir l'individu, en fait, et les individus.
C'est les deux, en fait. L'individu, je pense, est attrapé par l'authenticité de l'histoire et touché par les éléments de mise en scène qui viennent encore plus surligner les difficultés. Et c'est pour ça que ça peut être perçu comme « Oh, il y en a trop, c'est surligné, c'est surjoué, c'est pas réaliste. Mm-hmm. » C'est un petit peu effectivement théâtral. Mais après, c'est ce que Shakespeare disait aussi. Il disait « Le théâtre est un monde et tous, hommes comme femmes, n'en sont que les comédiens. Mm-hmm. » Et après, il y a une forme théâtrale, mais qui parle, le théâtre parle de notre vécu, de notre histoire et c'est ça aussi, c'est un parti pris. Voilà.
Après, pour arriver à faire ressentir, il faut aussi surligner les choses, peut-être un peu entre guillemets.
Il y a des gens qui ont besoin de ça.
Mettre l'accent, pour ressentir.
Et d'autres, pas du tout. Hein. D'autres, ils ont juste besoin des mots, et j'entends complètement. Mm. Et c'est pour ça que c'est une esthétique, encore une fois, je le redis, qui est particulière, et qu'il y a des gens qui vont se sentir complètement submergés par ce qu'ils voient, et d'autres qui sont hermétiques complètement. Et c'est pas grave.
Ouais.
C'est comme une œuvre d'art, on y est sensible ou pas, quoi.
Alors, le 4 octobre, tu as fait une projection débat. Et pour le coup, là, tu as bien précisé au début que tu t'entendais le faire comprendre sous un prisme émotionnel. Et tu as choisi 4 vidéos. Tu as choisi celle sur le harcèlement. Je suis borderline, je suis bipolaire et je suis toxicomane. Pourquoi ces 4 vidéos-là?
Alors, bipolaire et borderline, parce que ce sont deux troubles dont on parle beaucoup et qu'on confond énormément. Et qui ne sont pas ce que le grand public croit. Donc l'idée de cette conférence, c'était de déstigmatiser, puis de parler des maladies autrement qu'à travers des diaporamas. Mmh. Et puis, je suis toxicomane, c'était parce qu'aussi c'est une pathologie qui peut toucher beaucoup de gens, de tous les milieux sociaux, donc qui est, je pense, une des vidéos dans laquelle on peut plus se retrouver en tant que bon spectateur névrosé. Autant le trouble bipolaire, le trouble borderline, ça touche une petite partie de la population, autant la toxicomanie, c'est quand même beaucoup plus large. Et la dernière, le harcèlement scolaire, c'était parce que c'est pareil, c'est quelque chose dont on parle de plus en plus et qui est un phénomène, c'est bien qu'on en parle maintenant, qui est un phénomène qui fait de sacrés dégâts. qui est considéré comme, par beaucoup comme un traumatisme et qui, je pense, est important de, dont il est important de parler. Et donc, les gens qui étaient dans la salle, il y en a beaucoup, même des adultes, hein, qui se sont exprimés sur ça, ou des expériences qu'ils avaient vécues avec leurs enfants ou eux-mêmes étant plus jeunes. Donc, parce que, en gros, voilà, j'ai pris des vidéos qui étaient dans l'air du temps, avec des thématiques dans l'air du temps.
Comment est-ce que tu en es arrivé à vouloir faire ces projections-là ? C'était dans la même lignée de la chaîne YouTube ?
On m'a contacté.
Okay.
C'est une patiente experte qui était avec moi à la conférence, donc Marie Sarrazin, qui est bipolaire et qui m'a contacté en disant qu'elle était en lien avec la mairie de Toulouse, et qui, dans le cadre des SISM, des semaines d'information à la santé mentale, ils cherchaient des interventions. Et elle m'a dit, voilà, moi j'ai beaucoup aimé le travail que tu as fait, sur le trouble bipolaire, je me suis vraiment reconnu, donc je serais très heureux de travailler avec toi. Et du coup, c'est comme ça, elle m'a mis en lien avec la mairie, et depuis, à 2 années de reprise, on a fait cette conférence, dans le cadre des semaines d'information à la santé mentale, pour faire le lien entre le grand public et la santé mentale.
Alors, toutes tes vidéos sont très intenses, on peut les qualifier de lourdes. Il y a une vidéo qui dénote un petit peu, c'est « Je suis bisexuel ». Alors déjà, c'est une vidéo où on te voit préparer la vidéo, justement, on te voit mettre la caméra en place. Pourquoi ce choix ? Parce que là, en général, on ne te voit pas vraiment préparer la vidéo, mettre les choses en place. Là, on te voit le faire. Alors pourquoi ce choix ? Est-ce que tu te souviens ? Attends, je vais te remettre le micro.
Ah, mais je m'en souviens, hein. Ah. Mais je m'en souviens bien, hein. On me voit mettre la caméra et puis un texte qui s'affiche.
Oui.
Je sais plus. Pour un côté peut-être métathéâtral ou pour une forme de transparence, peut-être de dire, c'est encore une fois, ça pourrait être moi, tu vois, il y a ce truc-là aussi de... C'était peut-être ça. C'était peut-être ce truc-là de... Je vous me voyez, je suis en train d'habiller, de porter un masque, mais en même temps, juste derrière, je suis là et c'est toujours, même si je parle pour quelqu'un d'autre, c'est toujours moi.
Pourquoi cette vidéo, elle dénote un petit peu, elle est plus légère ?
Ouais, ouais.
Pourquoi ce choix ?
Parce que pour changer, casser un petit peu le rythme de la chaîne qu'il y avait, et puis parce que c'est aussi un sujet qui peut se traiter avec plus de légèreté, puisque ça a été écrit comme ça. La personne qui me l'a envoyé dans une forme de légèreté en disant, voilà, je veux un truc plutôt format podcast, plutôt humour. Je dis, ok, banco, on va s'amuser.
Alors, il y a une vidéo où tu parles justement de ta vision de l'art. Je te propose qu'on en parle, mais après une deuxième pause musicale. Okay. Et je te propose de nous dire un petit peu quelle musique tu as choisi.
Et oui, c'est Divina Aere de Ludovico Einaudi, qui est un compositeur italien que j'utilise aussi souvent dans mes vidéos et qui a l'art de nous emporter dans des envolées lyriques qui sont extrêmement touchantes.
Alors, en 2016, tu as sorti une vidéo qui parle de l'art. Et en fait, tu parles d'un spectacle que tu es allé voir qui s'appelle Orestie.
Oui.
Est-ce que tu peux nous en dire plus?
C'était une vidéo que j'ai voulu réaliser, donc qui n'a rien à voir avec les témoignages. Hein. C'était une parenthèse, une forme d'ovni, des fois, des besoins comme ça de s'exprimer, de parler suite à quelque chose qu'on a vu. Et c'est très bien, hein, parce que du coup, ben, ce spectacle, moi, m'avait scandalisé. Pourtant, je ne me scandalise pas souvent. Et ce n'est pas en termes d'image que j'ai pu voir des choses trash. Ça ne me dérange pas. Je ne peux pas dire avec plaisir. Mais c'est étonnant, c'est ce qui m'est venu quand même spontanément. En tout cas, c'est avec intérêt que je peux voir ce genre d'image sur le plateau. Mais quand il n'y a aucun sens et que c'est juste un enchaînement de tableaux esthétiques, ceci dit absolument grandiose, j'étais en colère, moi, après avoir vu ce spectacle. Surtout que ça a été applaudi et surapplaudi. Et je me suis dit, je crois que je ne suis pas du tout dans un monde là, je suis en dissonance avec le monde qui se passe. Parce qu'on ne peut pas applaudir un travail comme ça. On peut applaudir la performance esthétique, ça n'a pas de problème. Mais ça ne méritait pas autant de rappels, selon moi. Et ce qui m'avait un petit peu offusqué, c'était ce côté très élitiste. Donc on parlait d'Orestie, qui est une tragédie de l'Antiquité, qui part d'Oreste, je crois. Et en fait, il n'y avait pas de sens, il n'y avait pas d'histoire. Il fallait connaître, il fallait avoir un bagage culturel, artistique, pour comprendre ce qui se passait sous nos yeux. Et ça m'a saoulé, parce que pour moi, l'art, c'est pas ça. L'art, ça doit pas s'adresser à une élite. L'art, il doit être populaire et il doit pas venir s'adresser à une minorité de personnes, même si ils peuvent être effectivement renversés par ce qu'ils ont vu, ça doit s'adresser pour moi au plus grand nombre. Et là, il y avait absolument pas l'équipement et l'accompagnement du spectateur pour qu'il soit pris dans une compréhension de quelque chose et dans un sentiment. Alors après, c'est moi. Moi, je sais que j'ai besoin de passer par l'intellect pour comprendre. Et c'est à ce moment-là que je me suis dit, mais ok, c'est quand même notre argent qui va dans ce genre de projet. Bon, il y a plein de manières de se scandaliser de où va l'argent issu de nos impôts. Mais là, c'était merde, en fait. On utilise notre argent, l'argent public, pour financer des spectacles qui s'adressent à une élite. Et ça m'a gonflé, parce que c'est pas du tout le but de l'art. Il y a plein d'artistes qui s'adressent au peuple, à la masse, et en tout cas je dis ça de manière positive, hein, qui le font très bien, d'une façon très belle, et qui sont pas toujours, selon moi, assez mis en avant.
C'est un peu aux antipodes de ce que tu défends, en fait. Tu défends, toi, un théâtre, un art qui peut s'adresser au plus grand nombre.
Ouais, j'essaye, et je suis sûr qu'on peut être beau et touchant en s'adressant au plus grand nombre. On peut être populaire, quoi, sans être populiste, sans être élitiste, et sans forcément commencer à faire du commercial. Et alors c'est facile à dire, hein, ceci dit, ce que je suis en train de dire, mais il y a des artistes qui le font très bien et qui s'adressent et qui donnent les outils pour comprendre ce qui est en train d'être vu. Et là, ça m'avait un petit peu heurté, parce que voilà, c'était pour moi du petit art, aussi grandiose que ce soit. C'était un art pour une minorité, un petit art au sens où il s'adressait à une petite partie de la population. Et même quand je repense à ce spectacle, j'ai des images qui me viennent et je me dis waouh, c'était quand même hyper prenant physiquement, sensoriellement, tu vois, moi qui adore être pris sensoriellement, mais je me suis senti insulté, en fait. Mais c'est très bien que ce spectacle finalement ait le mérite d'exister, parce que moi, il m'a fait parler, et puis il a fait réagir la communauté aussi, donc malgré tout, malgré ce que j'en dis, bah, on en parle ici aujourd'hui, donc... C'est que, alors on ne parle pas du tout de ce qu'il y avait derrière, de la violence, de la portée du monde qu'il y avait autour de ce spectacle, mais enfin, en tout cas, de ce qui, je ne pense pas qu'il voulait transmettre ça. C'est un metteur en scène très connu, hein, c'est... comment il s'appelle ? Metteur en scène italien, Romeo Castellucci, qui est donc réputé pour être un metteur en scène provocateur. Et moi, justement, j'aimais bien ce côté-là. Je dis, tiens, qu'est-ce qu'il va nous apporter ? Et c'est la première fois qu'il venait à Toulouse alors que j'avais l'opportunité d'y aller. Et j'ai dit, bon, bah, ok... C'est un peintre, mais c'est pas un scénographe, peut-être, mais c'est certainement pas un artiste avec un grand A. Il est brillant, mais il s'adresse pas à la population.
Oui,
il s'adresse à une élite.
Ça, c'est la différence que tu fais entre l'art et l'art avec un grand A.
Oui.
Et, est-ce que tu, parce que si tu parles du fait que il faut un certain bagage culturel pour comprendre ce spectacle, est-ce que tu penses que le théâtre ou l'art, ça doit être compris pour être apprécié?
Moi, oui. Moi, c'est mon parti pris, mais je sais que c'est pas du tout le parti pris d'autres personnes. Donc, si, c'est pour ça que j'essaie de faire des vidéos moi, qui s'adressent au plus grand nombre et qui sont susceptibles de... J'explique la démarche, tu vois. Je dis d'où je pars ou d'où... Ou, alors, pas forcément où je vais, mais en tout cas, j'explique la démarche que c'est d'aller piocher la substance chez les gens, voilà, que c'est une co-construction, etc. Et je donne les outils pour comprendre ce qu'on voit. Enfin, j'espère, j'essaye. Et oui, je pense que c'est important de comprendre d'où ça vient. Moi, typiquement, une exposition de photos, si tu m'expliques pas, si j'ai pas quelqu'un qui vient me dire « Ok, le photographe, il a pris les photos dans ce contexte-là, il voulait exprimer ça sans forcément me donner toutes les indications clés, mais au moins un prisme, au moins une ligne conductrice qui me permette de comprendre l'intention générale. » Là, je vais être vachement plus touché. Mais tu me balances une exposition photo... Ça marchera pas, ouais. Mais c'est Franck Lepage aussi qui en parle très bien dans ses conférences sur Internet, sur l'éducation populaire. Balancer de la culture à des gens qui n'y connaissent rien, ça ne marche pas, ça n'a jamais marché. Enfin, où il faut des médiateurs, il faut quelqu'un qui donne des outils pour comprendre, ou alors c'est un art qui donne directement les outils, mais s'il n'y en a pas, il faut qu'il y ait un médiateur pour expliquer. Voilà, tu ne balances pas de la culture comme ça, ça ne sert à rien, ça parle à des gens qui ont déjà un bagage culturel. Et voilà, je trouve ça dommage d'entretenir un art élitiste alors qu'il y a beaucoup d'artistes qui font des choses très bien qui s'adressent à tout le monde, quoi.
Et il y a une phrase qui m'a marqué, c'est que tu dis que l'art, ça doit éveiller les sciences et les consciences et aiguiser les esprits. Est-ce que toi, c'est quelque chose que tu cherches à faire et qu'est-ce que tu entends un peu par là?
Oui, je pense que j'essaie de porter ça. Alors de manière... modeste, hein, parce que moi je vais pas révolutionner l'art avec ma petite communauté, mais alors j'avais dans la mise en scène aussi, parce que du coup j'ai fait du théâtre, j'en ai fait en tant que metteur en scène, là maintenant je suis comédien dans des projets, on pourra en parler d'ailleurs, sur un projet sur le harcèlement scolaire, et j'essaie toujours, en tout cas quand j'étais en mise en scène, de m'adresser au plus grand nombre. Donc j'avais mis en scène Antigone, qui est une tragédie qui peut être vue comme... c'est pas Harry Potter, quoi, ça reste Antigone. Et j'avais essayé de faire en sorte de la mettre en scène d'une manière la plus accessible possible. Mais bon, un peu comme mes vidéos, hein, c'est un peu la même esthétique. Et oui, j'essaye de m'adresser au plus grand nombre, mais ça marche pas toujours. Il y a des gens qui ne sont pas sensibles. Mais je pense aussi qu'il faut adapter les codes. Je pense qu'il y a des nouvelles générations qui arrivent, qui sont sensibles à d'autres choses. Je pense que voilà, le théâtre, ce n'est pas qu'un lieu de personnes avec un bagage culturel, issues d'une certaine expérience, d'un certain âge. Je pense qu'il faut aller... Enfin, ce n'est pas moi qui le fais, mais je connais des artistes qui le font très bien, qui vont chercher des nouveaux publics. Et en un sens, ouais, c'est comme ça. C'est en essayant d'apprivoiser le spectateur. Voilà.
Alors ça va être l'heure de nous laisser, bientôt on n'aura pas le temps de tout aborder. Pour finir un peu l'émission, je te propose un petit jeu, un petit portrait chinois, parce que tu vois ce que c'est de ton personnage, du personnage de Clarence.
Ouais.
Du coup, si tu devais résumer ce personnage en un aliment, qu'est-ce que ce serait ?
Alors là, tu vas pouvoir couper, hein, parce qu'il va y avoir beaucoup de réflexions. Balance.
Oui, oui.
Donc en élément, on a le feu, la foudre, l'eau, l'air. Le premier spontanément qui m'est venu, c'est l'eau, parce qu'il y a un côté où il s'infiltre avec l'autre, tu vois. Il essaie de s'imprégner de l'autre pour après en parler. Mais en même temps, il y a ce côté aussi... Quand on regarde les vidéos, qui peut retourner, ce côté un peu marquant. Mais là, je trouve que c'est la foudre, peut-être, qui illustre bien. Alors, c'est pas forcément un coup de foudre, hein, mais en tout cas, c'est une forme de choc.
Oui,
il y a pas mal de gens qui
me
parlent de choc quand ils regardent les vidéos. Donc, peut-être la foudre, ouais. Un truc comme ça, très impulsif, nerveux et d'une certaine manière brûlant.
Donc, un mélange eau, feu et foudre.
Ouais.
Et si c'était un aliment de la nourriture? J'adore ce jeu.
Du wasabi.
Ah oui, parce que ça pique.
Ça pique et puis... non, ouais, non, tu pourras l'enlever. Mais... Plus que du piment, du wasabi. Non, voilà, bref, du wasabi.
Si c'était une couleur.
Du noir.
Oui, bah, c'est logique.
C'est souvent oui, du noir et du blanc. Comme... aux extrêmes, aux antipodes.
Si c'était une fleur.
Ben, une rose noire.
C'est beau, ça pique.
Et puis c'est antagoniste.
Si c'était un animal.
C'est antinomique. En fait, il y a deux. C'est le premier qui m'est venu. Je sais pas pourquoi. Tu vois, mais c'est le furet. Il y a le passe, mais c'est plutôt par rapport aux premières vidéos que je faisais, le format podcast extrêmement nerveux qui saute partout, qui crie partout. Donc il y a ce côté-là, voilà, ouais, nerveux et électrique. Et donc ça, c'était voilà, peut-être pour les premières vidéos. Et pour les secondes, peut-être le caméléon.
Ah bah oui, du coup, ce qui s'adapte
ouais, à ce qu'on lui demande, à son environnement, qui essaye en tout cas.
Si c'était un signe astrologique.
La balance. Ah, tu vois, j'ai pas hésité.
Parce qu'on oscille entre deux.
Ouais, et puis à la question du choix, tu vois, dans la chaîne YouTube, j'ai mis du temps avant de trouver une orientation qui me plaisait. J'ai voulu explorer plein de trucs. Et puis, c'est pas facile pour moi de faire des choix, même si je me soigne. Et je suis pas la pire balance que je connais. Franchement, maintenant, quand j'arrive au resto, je suis un des premiers à choisir et tout, alors qu'avant, j'étais un des derniers. Non, c'est moi qui me ris de mes amis en disant vous voyez, vous foutez de ma gueule maintenant. Je sais choisir alors que vous ramez. Quand t'es balance, t'es super fier de ça.
Tu m'étonnes. Et si tu devais le résumer en une vidéo?
Une seule vidéo, bah, la vidéo d'introduction qui est sur ma chaîne. Quand on va sur ma chaîne, il y a une vidéo d'introduction de 3 minutes qui montre des extraits de plein de passages de ce que c'est, qui s'appelle La psychiatrie en 3 minutes, tu vois, le titre bien putaclic, et qui permet d'avoir un échantillon du travail qui est donné.
En tout cas, merci beaucoup d'être venu.
Eh bien écoute, avec grand plaisir.
Comment est-ce qu'on peut te suivre sur les réseaux sociaux?
Instagram, Twitter, Facebook, YouTube, World of Clarence, le monde de Clarence en anglais. Voilà, je suis un peu partout. Sur YouTube, ah oui, TikTok aussi, pardon. Il y a TikTok, World of Clarence 2, parce que le premier compte n'existe plus. Et voilà, c'est assez éclectique ce qui est publié. Alors, faut savoir que sur TikTok, j'ai fait toute une série de vidéos beaucoup plus explicatives, donc qui n'étaient pas centrées sur l'émotionnel, mais beaucoup plus théoriques sur ce qu'étaient les maladies. Donc ça, voilà, ça se sort du format empathie et émotionnel. C'était plus vraiment concrètement ce que les symptômes du trouble bipolaire, du trouble borderline, comment ça se manifeste, qu'est-ce qu'on fait derrière, quelles sont les prises en charge, les traitements, etc.
Je vais te poser une dernière question. Qu'est-ce que tu préfères dans le théâtre ?
Tu m'aurais posé la question, c'est quoi l'art? J'aurais su te répondre. Hein. Et qu'est-ce que je préfère dans le théâtre? C'est une question à laquelle je n'ai jamais réfléchi. Alors, on va falloir un petit temps. Bah, c'est l'authenticité et la vulnérabilité de ce qui se passe sur le plateau, le direct, voir les corps sans filtre. Et d'un point de vue plus pragmatique, moi, ce qui me saisit rapidement au théâtre, c'est le... quand tous les sens sont stimulés, quand vraiment on utilise la mise en scène, les artifices de mise en scène, que ce soit la lumière, la musique, parfois même les odeurs. Ça m'est déjà arrivé de voir un spectacle avec une création olfactive. Ça, j'adore être saisi vraiment parce que ça se passe là, en direct, comme au cinéma, comme des grandes scènes d'action au cinéma, mais en direct, quand je suis saisi par tous les sens. là, j'arrive à partir. Il y a une forme de jouissance presque. Hein. C'est rare quand j'arrive à toucher ça au théâtre, mais c'est pour moi, avec la musique, un des arts où je trouve le plus facilement ce point d'extase.
Ouais, le côté d'être embarqué d'une manière immersive.
Voilà, être immergé, ouais. Merci. Mais ça n'arrive pas tout le temps, c'est rare, mais quand ça arrive, je m'en souviens.
Par exemple, c'est arrivé quand ?
C'est arrivé avec le spectacle de Thomas Joly, qui est un metteur en scène que j'aime beaucoup. Donc c'était il y a 3 ans, je crois. Spectacle avec de Julien Gosselin, sur un... Lui, son délire, c'est de mettre en scène des trucs immontables, donc des pavés, des romans qui font 1000 pages, il les adapte au théâtre. C'est arrivé avec un spectacle belge qui s'appelait La Tristesse. Voilà, je crois que c'était mes dernières expériences. Et c'est arrivé aussi avec le spectacle Saïra de Joël Pomera.
Ouais.
Tu l'as vu ?
Non, mais non, je sais qui c'est.
Ouais, qui un spectacle qui reprenait la création de l'Assemblée nationale et de qui reposait les enjeux de la Révolution française. Et c'était incroyable parce qu'il avait transformé le théâtre en fait en...
Ah mais si, je l'ai vu.
La scène de théâtre était une tribune et le public, le spectateur était l'Assemblée générale.
Ouais,
quoi.
C'est ça. Ouais, je m'en souviens, je l'ai vu.
Et en fait, c'était trop bien parce que du coup, on avait des acteurs parmi nous, on était appelés à voter et c'était incroyable. J'avais l'impression de vraiment revivre l'histoire de mon pays et enfin de comprendre les enjeux de cette révolution et enjeux qui n'ont pas changé. Enfin, en tout cas, tu te rends compte que 300 ans après, c'est toujours les mêmes problématiques. Bon, après, ça a été réécrit aussi par un contemporain, donc forcément qui... Il a greffé sa patte, mais j'avais été saisi à la fois sensoriellement et intellectuellement. Et ça, quand ça arrive, waouh.
Ouais, je me souviens. Non, c'est, je l'ai vu. Merci.
Ouais, avec plaisir.
D'accord. Alors, petite dernière chose avant de terminer. Tu disais que tu étais metteur en scène et comédien. Est-ce qu'il y a des projets là qui arrivent ?
Ouais, il y a un projet dans lequel je suis actuellement qui s'appelle L'Autre Miskine, qui est un projet sur le harcèlement scolaire qu'on tourne avec une compagnie gersoise qui s'appelle la compagnie Plume au Vent, dirigée par Aurélie Duteil. Et c'est une pièce qu'elle a écrite et qui parle du harcèlement scolaire et qu'on joue pour les collèges et les lycées de la région. Donc on a déjà joué plusieurs fois l'année dernière dans des lycées gersois et on va remettre le couvert là en 2022. Voilà pour les projets artistiques, le projet artistique du moment.
Affaire à suivre.
Ouais, moi après, moi je suis pas metteur en scène dedans, je suis juste comédien.
D'accord. Bah, affaire à suivre.
Ouais.
Merci beaucoup d'être venu, Clarence.
Avec plaisir.
Nous, eh ben, on se retrouve avec un petit conte et puis on se laisse. Un groupe de petites fées était recroquevillé dans leur maison sous les racines profondes d'un chêne géant. Elles étaient en sécurité et bien au chaud dans leur grotte minuscule bordée de duvets de pissenlit, de plumes d'oiseaux et de mousse séchée. Dehors, le vent soufflait du froid et la neige tombait doucement vers le bas couvrant le sol. « J'ai vu le roi soleil aujourd'hui, » dit la fée nommée Rose comme elle tirait son manteau de mousse autour d'elle. Il avait l'air si vieux et fatigué comme il s'en allait dans la forêt. Quel est le problème avec lui ? Le grand chêne dit qu'il est en train de mourir, répondit Jonquille. Mourir ? Oh, mais qu'allons-nous faire maintenant ? Commença à pleurer Petite Herbe des Prairies. Si le roi soleil meurt, nos amis les petites plantes ne pousseront pas, les oiseaux ne viendront pas chanter à nouveau, tout sera à jamais l'hiver. Lila, Pissenlit et Fleur de Sureau tentèrent de réconforter leurs amies, mais elles étaient toutes très tristes. Comme elles se recroquevillèrent les unes sur les autres, on frappa à la minuscule porte. « Fée, ouvrez !» cria une voix forte. « Pourquoi vous cachez-vous au lieu de nous rejoindre dans notre célébration du solstice ? Rose ouvrit la porte et le petit gnome marron noueux se poussa à l'intérieur, secouant les flocons de neige étincelants de son habit brun et de son chapeau. « Nous sommes trop tristes pour faire la fête !» déclara Jonquille en essuyant ses yeux. « Le roi soleil se meurt. N'en avez-vous pas entendu parler ?»« Il n'est pas mort, stupide fée !» Marron noueux roulait des yeux sombres où brillaient des rires. « Maintenant, dépêchez-vous, ou nous allons être en retard à la fête !» Comment pouvez-vous être heureux et rire ? Fleur de Sureau tapa par terre de son petit pied et fronça les sourcils devant le gnome. Si le roi soleil est mort, ce sera toujours l'hiver. Nous ne reverrons jamais le soleil à nouveau. Stupide enfant fée ! Baron Nouveau saisit Pissenlit par la main et la tira sur ses pieds. Il y a un secret niché au cœur du solstice d'hiver. Vous ne voulez pas savoir ce que c'est ? Les fées le regardèrent avec étonnement. Un secret ? Dirent-elles. Quel secret ? « Nous ne sommes que des nouvelles fées, gnome idiot. Nous n'avons jamais été à une fête du solstice avant. »« Venez voyez, venez voyez. Mettez votre cape et venez avec moi. » Marron Nouveau dansait la guigue autour de la salle. « Vite, vite, ne soyez pas si lente. Au bosquet du chêne sacré dans la neige. » Il dansa sur le pas de la porte et disparut. Qu'est-ce que ce gnome a voulu dire ? Demanda Rose en même temps qu'elle ramassait son manteau de pétales de rose, entrelacé par des toiles d'araignée et bordé de duvet d'oie. Je ne sais pas, mais la dame vit dans le bois sacré, Herbe des Prairies tira sur son chapeau. Peut-être que si nous allons voir la déesse, elle pourra expliquer ce dont Marron Nouveau parlait. Les fées quittèrent leur douillette maison et marchèrent péniblement dans la neige en direction du bosquet du chêne sacré. La forêt était sombre, avec la seule lumière de la lune brillant à travers les épaisses branches de sapin et les membres nus de l'érable et de l'aubépine. Il était très difficile pour elles de passer à travers la neige, car elles étaient vraiment très, très petites. Comme elles pataugeaient dans la neige mouillée et grelottaient dans le vent froid, elles rencontrèrent un renard. « Où allez-vous, petite fée ?» demanda le renard. « Au bois sacré, » répondirent-elles, grelottantes et frissonnantes. « Montez sur mon dos et je vous y emmènerai rapidement. » Le renard se mit à genoux, de sorte que les fées puissent grimper. Puis, il courut à travers l'obscurité. « Écoutez !» dit Lila alors qu'il s'approchait du bosquet sacré. « Des personnes chantent des chansons de joie. Beaucoup de personnes !» La belle musique repoussait l'air froid, tranquille et nimbé de clair de lune. C'était la plus belle musique que les fées n'avaient jamais entendue. Le renard transporta les fées tout droit au bord de l'autel de pierre, au centre du bosquet, puis se mit à genoux. « Regardez !» dit Fleur de Sureau comme elle glissait sur le sol enneigé. « Il y a la jeune fille et la mère et l'ancienne et beaucoup d'autres personnes du petit peuple. »« Ils sont tous souriants et heureux !» déclara Lila en regardant toutes les créatures autour d'elle. « Tous les animaux sont là aussi !» chuchota Pissenlit. « Pourquoi regardent-ils tous la mère ?» Les fées se rapprochèrent des trois dames assises sur la pierre d'autel. La mère tenait un gros paquet dans ses bras, à qui elle souriait. La jeune fille se pencha et prit doucement les fées dans ses mains. Elle les tint près de la mère afin qu'elle puisse voir ce qu'elle tenait. « Un bébé !» s'écrièrent les fées. « Un nouveau bébé ! Regardez comme il brille !»« Il est le nouveau-né roi soleil !» déclara la jeune fille en souriant. Mais Marron Nouveau et le vieux chêne avaient dit que le roi soleil est mort, lui répondirent les fées. Comment ce petit bébé peut-il être le roi soleil ? C'est le grand secret du solstice d'hiver. L'ancienne, la sage, toucha la joue du bébé avec sa main ridée. Chaque année, le roi soleil doit venir dans le bois sacré pendant les jours sombres de l'hiver où il meurt. J'amène son esprit à la mer qui lui donne à nouveau une nouvelle vie. C'est la voix de toutes les créatures, pas seulement du roi soleil. Vous voulez dire que tout vit et meurt et vit à nouveau ? Les fées regardèrent avec stupeur vers l'enfant roi soleil, niché dans les bras de la mère. Oui, petite, répondit la vieille sage, il n'y a jamais une fin à la vie, c'est le grand secret mystique du solstice d'hiver. Les fées rirent tellement elles étaient heureuses. Je lui montrerai où les roses sauvages fleurissent au début de l'été, et je lui apprendrai à appeler les oiseaux et écouter les chansons du vent, s'écria Pissenlit. « Quand il sera plus âgé et plus fort, » dit la mère, « alors les fleurs s'épanouiront à son contact, les oiseaux seront de retour pour chanter leurs chansons, et le souffle de l'air sera chaud, et l'hiver sera parti pour un temps. Alors le roi soleil courra et jouera avec vous dans la forêt. » Les fées chantèrent pour le bébé roi soleil des chants pour la venue du printemps, les fleurs odorantes, les abeilles endormies et tous les secrets de la forêt. Et toutes les créatures du bois sacré chantèrent avec elles. Alors le renard les ramena à leur douillette maison sous les racines du chêne géant où elles firent des rêves merveilleux en attendant la chaleur du printemps et le plaisir qu'elles auraient avec le petit roi soleil. Et voilà, merci à tous d'avoir écouté. C'était Bord de Seine, une émission animée par Tiffaine Lemaine. Vous pourrez retrouver cette émission sur le site Esprit Occitanie, sur notre chaîne YouTube, ainsi que sur notre application. Je vous souhaite à tous une très très belle semaine et je vous dis à bientôt pour un nouveau Bord de Seine.